bidon, mon pépère.
Christopher Zoumapieu, mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça.
Aïe, 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 attention, Philippe, vous nous faire rappeler. Allez, mon grand. T'es grand aujourd'hui. T'es grand.
Chapeau, chapeau, chapeau.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast qui décrypte l'actualité cycliste. Ce podcast, ce 26e podcast de l'année 2020, ce sera bien tout simplement le dernier de cette saison pour Chasse Patate. On se rapproche de la saison 2021 et avec ce podcast, on va ouvrir un petit peu la page 2021 en refermant également celle de 2020 puisqu'on va s'intéresser au transfert, au mercato de cette intersaison 2020-2021. Alors, bien évidemment, on ne pourra pas évoquer tous les transferts qui ont eu lieu et qui vont encore avoir lieu, puisque le mercato est encore, n'est pas encore tout à fait fini. Si vous voulez avoir un peu un point de vue complet, vous avez la liste qui est disponible sur le forum du groupe Eto, on vous invite à y voir. Aujourd'hui, on va faire une petite sélection des transferts les plus importants, en côté des transferts intéressants et des transferts pour lesquels on peut se poser quelques questions. Ce sont nos chroniqueurs qui vont donner un petit peu leur avis et qui ont justement fait également cette sélection aujourd'hui. Donc, nos chroniqueurs, bien, je vais vous les présenter. Alex, pour commencer, qui est le retour dans Chasse Patate. Salut Alex.
Salut, salut.
Et on accueille également deux pour le prix d'un, c'est magnifique, dans Chasse Patate. Titouan, pour commencer. Salut Titouan.
Salut, bonjour à tous.
Et également notre troisième larron, Hugo. Salut Hugo.
Salut Mathieu, salut tout le monde.
Et Hugo, d'ailleurs, félicitations pour ton titre de forumer de l'année sur le groupe Eto avec Badneos. Petite récompense avec ton activité tout au long de l'année pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Et il est très présent, se demander s'il n'est pas présent sur le forum 25 heures sur 24.
Ah, c'est pas faux, mais bon, apparemment je gère aussi les transferts, donc ça arrange un peu.
Ah, il sait tout faire, c'est incroyable. Et bien voilà, donc à présent, vous savez tout, Chasse Patate, c'est parti. Alors donc, messieurs, pour commencer, on va regarder un petit peu les transferts qui vous intéressent le plus, qui vous hype le plus, on va dire. On va commencer par Titouan. Titouan, toi, tu as voulu nous parler de l'équipe Sunweb qui deviendra en 2021 DSM, avec un changement de sponsor principal. Pourquoi cette équipe-là te tente particulièrement ?
Parce qu'en fait, déjà cette année, elle nous a montré de belles choses avec l'effectif qu'elle avait déjà. Et tout en gardant un peu ses grosses têtes d'affiche, donc comme Hirschi, Inley, elle recrute Bardet, qui arrive avec Romain Combeau, son camarade d'Auvergnat. Bardet qui sort d'une saison blanche, mais qui devrait. Enfin, blanche, tout est relatif.
Compliqué en tout cas.
Qui devrait rebondir, je pense bien, chez Sunweb, qui semble lui correspondre au niveau du management, d'état d'esprit. Et surtout au niveau des espoirs qu'elle a recrutés. Alors déjà, il y a Marco Brenner. Un crack allemand, tout simplement. Un peu le Remco Evenepoel allemand. Bon, pas tous les comparer à Remco, mais voilà. Qui est passé sous le nez de la Bora. Et gros couleur en perspective, donc ça peut leur faire du bien. Et aussi, le gros espoir qui est Leknesund. Donc, le Norvégien de la Uno X, qui est fait quatrième du récent Tour de Slovaquie, alors qu'il y a encore espoir. Qui est champion d'Europe de chrono, tout ça, et qui aurait pu gagner le Tour de l'Avenir 2019, par exemple, s'il avait pu participer, parce qu'il a été blessé.
Et d'ailleurs, hein, par rapport à Marco Brenner, on signalera, si vous ne connaissez pas très bien ce coureur allemand, qui est très jeune, qu'il était en junior 2 cette année, il rejoindra les pros avant même de passer par la case espoir. On avait fait une chronique, il y a quelques épisodes, on vous invite à aller la réécouter, si ce n'est pas déjà le cas, pour voir un petit peu à quel point ce coureur est talentueux et très attendu de la part de beaucoup de monde. Donc Titouan, tu nous as parlé des recrues, Romain Bardet, et notamment des jeunes aussi, Marco Brenner, Andreas Leknesund. Au niveau des départs, il y a quand même des coureurs importants qui partent avec Wilco Kelderman, Michael Matthews, Sam Omen. Ça risque pas de faire perdre un petit peu en qualité à l'équipe ?
Je ne pense pas, parce que en fait, à mon sens, il y avait un risque pour l'équipe d'avoir un surplus de leaders avec tous les espoirs qu'elle recrute, parce qu'on dirait presque que c'est une équipe espoir. On aurait pu penser qu'il y aurait un surplus de leaders. Là, justement, ça éclaircit un peu le tableau. Par exemple, Matthews, bon, il n'a pas vraiment il a un profil très particulier qui fait qu'il n'a pas de remplaçant pur et parfait. Mais il y a Chris Boll qui le remplace, enfin, qui va être le sprinter de l'équipe vraiment attitré. Il y a aussi Alberto De Inese. Donc, ça fait déjà deux fronts de sprint à gérer. Donc, à mon sens, c'est pas lui qui va spécialement manquer, même si il avait des résultats. Sam Moomen, malgré son irrégularité, il était bon aussi, mais bon, son départ, il va être remplacé par Bardet, tout comme Wilco Gelderman dans un autre registre. Non, je pense pas que ce soit si dommageable.
Alex, toi, qu'est-ce que tu penses un petit peu, quel avis tu portes sur ce mercato de l'équipe Sunweb?
Bah, je le trouve plutôt bon. Déjà, l'arrivée de Bardet est un gros plus. En plus, ça fera un changement d'atmosphère pour lui qui était resté chez AG2R tant d'années et qui n'avait pas vraiment réussi à confirmer les espoirs placés en lui, surtout dans les années récentes. Il sort d'une saison difficile. Donc, je pense qu'aller dans un nouvel environnement avec de nouveaux coureurs, ça va peut-être le relancer. Et du côté des arrivées, je trouve aussi que les arrivées, en fait, le seul arrivée, je trouve, qui n'est pas compensée, c'est celle de Michael Matthews, qui va un peu manquer parce que, Titouan l'a dit, c'est un profil très particulier. Donc, c'est compliqué de trouver un remplaçant attitré. En fait, Benoît et Boll vont partager les cases que Matthews a laissées. Mais sinon, je pense que Omen et Power ne sont pas des pertes trop, trop importantes, surtout au vu des coureurs qu'on a, type Sunweb. Donc, on a Mark Hirschi, qui juste Power, mais en meilleur. Et du côté de Sam Omen, on amène Brenner, mais c'est pour encore plus long terme. Et de toute façon, il y aura Romain Bardet pour les grands tours. Donc, je trouve que le mercato de la Sunweb, la DSM, est plutôt bon et qu'au final, leurs pertes sont compensées par des leaders.
Hirschi qui d'ailleurs peut aussi remplacer Matthews dans certains registres, Puncher, ça, Flandrien, enfin ça correspond totalement aussi.
Hugo, pour terminer un petit peu sur l'équipe Sunweb, un mot à dire par rapport à Romain Bardet peut-être?
C'est un gros transfert. Hein. On a eu des gros départs, mais on a l'arrivée de Bardet et de plusieurs jeunes qui fait un assez bon mix, je trouve, entre jeunesse et expérience. Et en plus, les départs sont aussi compensés cette année, car il y a quand même, je trouve, beaucoup d'explosions chez les jeunes, chez Sunweb. J'ai vraiment eu cette impression qu'ils ont vraiment passé un niveau. C'était vraiment impressionnant. Tu avais l'impression à chaque fois, il y en avait un qui explosait. Et le lendemain, par exemple, sur le Tour de France, tu en avais un. Et puis, on avait un jour, on avait Hirschi, un autre jour, on avait Boll. Et même, par exemple, d'autres coureurs comme Johan Weiss à un niveau moindre, ils se sont montrés vraiment présents, quoi.
Et Jayinde, oui, là, il y a beaucoup de jeunes talents, c'est un petit peu une pépinière à talents. Après, il y a aussi un petit peu le contre-coup de cet aspect. On dit souvent que Sunweb est une équipe très jeune, ça va encore le rester en fait.
Ouais, sur ce coup-là, c'est vrai que ils sont la moitié de l'effectif qui est U23, je crois. C'est énorme, mais je trouve que leur mercato est plus équilibré que l'an dernier. Ils avaient vraiment mis le paquet sur les jeunes sans vraiment recruter. Ils avaient recruté comme Sutterlin et Denz, mais c'était pas vraiment de grosses recrues expérimentées. Je trouve qu'ils ont assez bien contrebalancé cette année parce qu'ils sont vraiment des jeunes qui ont explosé. Au contraire d'autres équipes comme Lotto Soudal, par exemple, cette année, qui justement, ils ont recruté que des jeunes et j'ai l'impression qu'ils veulent faire une simili Sunweb. Et j'ai vraiment peur pour eux, par exemple, cette année, juste pour les évoquer comme ça. Ils ont vraiment recruté 9 jeunes et il n'y a que ça, quoi. C'est vraiment impressionnant. Ils sont passés d'une équipe assez, on va dire, polyvalente au niveau âge à une équipe où tu as plus de 10 jeunes espoirs. Plus de la moitié de leur effectif est passé vraiment jeune, quoi. C'est vraiment impressionnant.
Enfin, l'année dernière, la Sunweb avait une moyenne d'âge de 28 ans et ça a bien marché quand même.
Ça ne leur a pas posé problème, c'est sûr.
J'en dis pas de contraire, mais j'ai plus l'impression que pour la Lotto Soudal, ils ont vu cette année que la Sunweb, ça marchait super bien. Et ils se sont dit, ok, on va reproduire ce modèle cette année, mais je me demande pas si c'est un peu trop extrême en fait.
On a parlé un petit peu de Romain Bardet. Alex, toi tu voulais nous parler, souligner le mercato de l'équipe que le Français quitte, à savoir AG2R, qui deviendra l'an prochain AG2R Citroën, avec notamment les recrues de Bob Jungels et de Greg Van Avermaet.
Oui, absolument. Moi je trouve qu'au contraire de leur maillot, la nouvelle AG2R Citroën a fait un mercato qui était plutôt bon.
Maillot qui a pas mal divisé, en tout cas.
C'est le moins qu'on puisse dire. Les arrivées de Van Avermaet et Jungels, je pense que ce sont des vrais bons coups pour AG2R. Surtout la venue de Van Avermaet, qui ramène aussi l'équipementier BMC dans l'équipe, qui amène donc de nouveaux vélos qui ont l'air fantastiques. Ça va changer chez AG2R, qui avait beaucoup de problèmes de matériel en ce moment.
Et qui change à nouveau de fournisseur de cadre. Hein. Je ne sais plus combien de fournisseurs cycles ça fait depuis le début de l'équipe. En tout cas, ils sont habitués à changer tous les 2-3 ans. Peut-être avec BMC, peut-être un peu de stabilité. C'est ce qu'on verra en tout cas. Oui.
Je leur espère, puisqu'ils avaient énormément de problèmes avec le matériel dans les récentes années. L'arrivée de Van Avermaet, en plus, elle est double parce que ça va renforcer leur effectif sur les pavés. Nezen, il avait l'air un peu tout seul lors des années récentes. Alors, on ne peut pas vraiment comparer l'année dernière parce qu'il y a eu très peu de classiques pavés. Il y a eu l'Omloop, le Grand Prix E3 et c'est à peu près tout. Peut-être une ou deux autres.
Le Rond.
Le Tour de Flandre.
Mais il n'y a pas eu Paris-Roubaix. Et donc, du coup, Nezen, j'ai l'impression qu'il est un peu tout seul à chaque fois sur cet effectif ADG2R. Il y avait Goujard avant qui n'est pas trop mauvais surtout, mais ça manquait d'un vrai gros équipier pavé. Et Van Avermaet, il peut apporter cet équilibre, en plus d'être un leader polyvalent sur les courses où il a une belle pointe de vitesse, type petit Renault où il avait déjà remporté des bouquets. Et en plus, la venue de Bob Jungel, je trouve, correspond plutôt bien à l'équipe. Certes, ils perdent Bardet, donc ils perdent un gros leader grand tour. Mais avec la venue de Jungels, ils ne rapportent pas quelqu'un qui va scorer sur les grands tours. Ça va être leur leader grand tour, mais je n'ai pas l'impression qu'AG2R devrait l'utiliser comme ça ou va l'utiliser comme ça. C'est surtout un très bon coureur sur les courses d'une semaine qui est excellent en contre-la-montre, qui a de belles capacités d'endurance. Donc je pense que pour AG2R, la venue de Jungels va les remettre sur le premier plan dans la course au podium sur les courses d'une semaine. Où ils avaient du mal à briller justement parce que Bardet avait des limitations en contre-la-montre qui étaient quand même assez présentes. Et quant au reste du recrutement à G2R, je trouve plutôt équilibré. La seule venue que je n'aime pas du tout, c'est Lilian Calmejean qui compense un peu la perte de Pierre Latour. Mais Calmejean, c'est compliqué. C'est un coureur qui est plus orienté échappé. Et Pierre Latour, de toute façon, il n'avait pas prouvé énormément de choses. Peut-être qu'il explosera de nouveau à Total Direct Energy, c'est ce qu'on lui souhaite. Mais de l'autre côté, le recrutement d'AG2R est plutôt bon. Il y a un mix entre personnes expérimentées et personnes un peu plus jeunes, donc la venue de plusieurs coureurs du centre de formation de Chambéry, et la venue de Ben O'Connor d'NTT, qui est un vrai bon coup. L'Australien qui avait un peu de mal à la NTT récemment, mais qui a de belles capacités pour grimper. Donc je pense que c'est un mercato plutôt bon de la part d'AG2R, si on enlève la venue de Calmejean.
J'attendais que tu nous parles de Ben O'Connor, le coureur australien. En tout cas, ce qui est sûr, le moins que l'on puisse dire, c'est que pour AG2R Citroën, c'est un changement d'identité globale au niveau de l'équipe. Hein. Départ de Bardet, départ de Latour, départ de Vuillermo également. Et on recrute des coureurs qui sont plus classic men, avec en effet Van Avermaet, avec Bob Jungels, avec également Marc Sarro et Lilian Calmejean que tu as également cité. Hugo, toi, ce recrutement d'AG2R Citroën, il t'intéresse également ?
Ouais, je suis assez d'accord avec Alex, parce qu'on a quand même un Greg Van Avermaet qui, bon, il a été blessé cette année, mais ça reste un coureur extrêmement polyvalent qui est vraiment capable de scorer vraiment tout au long de l'année. Il a une très grosse régularité, même s'il vieillit. Et à côté, on passe d'un recrutement où c'était mono Nysen à presque, il y a trop de Flandriens dans l'équipe, en fait. Donc on va voir comment on fait les compos. Faut bien équilibrer, à voir si Jungels veut refaire des Flandriennes.
Le choix va pas être facile, c'est sûr.
Il va pas être facile, mais après, moi je trouve qu'on a un bel effectif vraiment pour aller chasser les étapes, pour viser les courses d'une semaine. Après, moi personnellement, je suis pas trop convaincu par Ben O'Connor parce qu'il a quand même vu. Il a fait des belles choses. Après, il est quand même extrêmement irrégulier, mais ça peut en même temps bien s'inscrire dans la dynamique parce qu'on a justement plein de jeunes grimpeurs. On n'a pas le grimpeur dans l'équipe. Ils peuvent se donner la balle, en fait. Il y a un grimpeur, puis on va aligner un autre grimpeur. On ne sait pas trop ce qu'ils peuvent donner, mais ils peuvent donner que des bonnes choses, en fait. C'est un peu ça, ce que je me dis.
Titouan, de ton côté, comment est-ce que tu vois ce recrutement, ce changement complet de philosophie pour AG2R ?
Ben moi, je trouve vraiment très intéressant, parce que, mine de rien, il a commencé quand même à être sérieusement en forme sur les Flandriennes avec l'arrivée de Nysen. Je pense notamment au dernier Paris-Roubaix, malheureusement, seulement lieu en 2019, où on a Stijn Vandenberghe qui a un peu tracté tout le peloton pendant une cinquantaine de kilomètres après la trouée d'Arenberg, qui menait le tempo, donc avec AG2R qui se montrait vraiment ambitieux sur les Flandriennes. Et là, du coup, je trouve que le recrutement est cohérent dans cette logique-là. D'autant plus que l'équipe avait aussi l'habitude d'être assez offensive dans les échappées sur les autres grands tours que le tour, où là, pour le coup, malheureusement, enfin, pas malheureusement, mais où c'était tout pour Bardet. Là, du coup, il va y avoir vraiment une liberté qu'on trouvait sur la Vuelta ou sur le Giro, qui va être adaptée au tour avec des coureurs de plus haut calibre, parce que Van Avermaet en échappée, c'est quand même assez efficace. Tout comme Nathan, on a déjà vu, ou Jungels, qui, s'il se désintéresse de classement général, peut aussi faire mal. Donc, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Ça peut donner quelque chose un peu comme ce à quoi pouvait ressembler la Sunweb éventuellement, ou voilà, une équipe de gaziers qui va à l'avant. Et Calmejane aussi s'inscrit dans cette logique. Même si, personnellement, je ne suis pas spécialement fan du corps, mais s'il se remet bien de sa blessure qu'il avait eue, il me semble, à la route d'Occitanie, ça peut faire mal aussi sur le calendrier français, notamment sur lequel AG2R avait un peu de mal à exister en dehors de Cosnefroid.
Et justement, voilà, Benoît Cosnefroy qui sera aussi là, hein, vous en avez pas trop parlé dans l'équation, ça sera lui hein, qui devrait continuer à mener l'équipe sur les courses vallonnées, et qui sera peut-être un peu la nouvelle tête d'affiche française de l'équipe savoyarde. Pour finir sur AG2R, est-ce qu'on peut dire un peu que c'est une sorte de Koenig Quickstep à la française?
C'est compliqué, parce que de Koenig, c'est beaucoup de sprint, hein, en fait. C'est aussi beaucoup de sprinteurs, alors que là, à part Marc Sarraud et de moins de mesure Clément Venturini, on n'a pas un gros train, on n'a pas un train avec Declercq, Lampert, Trichese, qui va amener Gaviria en orbite sur le tour, ou Sam Bennett, maintenant, donc... Non, on est quand même un peu loin. Mais au niveau des Flandriennes, je pense qu'on pourrait avoir un surnombre assez similaire. Ouais.
Alors justement, en parlant d'équipe dévolue au classique, d'équipe de classique, on va partir sur le troisième choix de ce top transfert. C'est le tien. Hugo, tu veux parler de l'équipe Alpecin Phoenix, l'équipe de Mathieu Van Der Poel, qui pour toi fait un recrutement plutôt très intéressant.
Ouais, parce que j'ai bien aimé certains recrutements des équipes World Tour, mais il y a de par d'autre côté, j'étais pas forcément emballé. J'avais des bons coups de cœur et des mauvais coups de cœur dans plusieurs équipes. Et par contre, au niveau vraiment en dessous, je trouvais vraiment que la Alpecin a fait vraiment un très très gros mercato. Parce que non seulement elle va se renforcer par les recrues, mais en plus elle perd mais vraiment personne. Alors c'est compliqué à dire parce qu'elle communique très peu.
Pour l'instant, il y a juste Lasse Norman Hansen qui est annoncé partant, qui rejoindra QBK.
Plus Peter Fagerhaug, mais qui n'avait pas couru dans l'équipe. Mais après, je vois mal, par exemple, des Alexander Krieger ou des Jenny Vermeersch, vu la saison qu'ils ont fait, ne pas avoir de contrat à l'heure actuelle. On sait que l'équipe communique peu, c'est un petit problème, mais sinon, au niveau des arrivées, on a quand même Jasper Philipsen, qui, bien que cette saison, il a deux victoires World Tour, une sur la Vuelta et une sur le Big Bang Tour. On a aussi Xandro Meurice, qui est un des meilleurs coureurs de l'Europe Tour, qui a fait d'ailleurs un bon Tour des Flandres, il me semble. Et je crois qu'il a terminé 15e dans ces eaux-là. Et puis après, voire récemment, on a aussi du coup eu le recrutement de coureurs qui sont expérimentés, comme Sylvain Dillier ou apparemment aussi Lorenz de Vries. Leurs résultats actuels, ils sont moins bons que ce qu'on a pu avoir dans le passé, mais ça s'inscrit bien aussi dans la démarche d'avoir de l'expérience à ramener aux côtés de Mathieu Van Der Poel, parce que là, il a certes une équipe à son service, mais c'est plus des coureurs qui ont connu la deuxième division que des coureurs qui viennent du World Tour. Et du coup, le seul défaut peut-être, c'est qu'il y a peut-être il y a vraiment que des classiques qui sont recrutés, à part peut-être les jeunes, où on a Tobias Beyer, qui est un jeune grimpeur qui a fait un bon Baby Giro avant d'abandonner, ou encore Jay Vine, bon, il n'a pas trop de références, mais il a gagné du coup la Zwift Academy cette année. Il a commencé le cyclisme un peu tard, quoi.
Justement, Hugo, tu nous dis, hein, le Alpecin Phoenix, qui est une équipe déjà très forte sur les classiques et qui recrute beaucoup de coureurs qui sont bons, talentueux dans ce domaine, c'est justement d'ailleurs l'équipe qui sera invitée automatiquement sur l'ensemble des courses World Tour la saison prochaine. Est-ce qu'ils n'ont pas un peu manqué leur recrutement en oubliant d'aller chercher un grimpeur, peut-être,
hein? C'est un peu ce que je me dis, mais en même temps, ils vont choisir leur carte World Tour. Qu'est-ce qu'ils vont choisir comme wildcard? Parce qu'au final, ils avaient déjà la plupart des wildcards sur les courses d'un jour et je ne les vois pas m'en demander beaucoup pour les épreuves d'une semaine parce qu'ils n'ont pas l'effectif, effectivement, pour aller chercher des résultats. Les Petre Vakok, ou les Christian Sbaraglia, même si, par exemple, Petre Vakok, il a fait une très bonne saison, c'est pas des coureurs que je vois parfaits sur des profils qui sont un peu plus montagneux quand même sur le World Tour. De ce point de vue-là, peut-être que c'est raté. Mais après, leur objectif, c'est vraiment la première place Europe Tour. Et la première place Europe Tour, c'est les courses d'un jour. Donc, de ce point de vue-là, c'est, je le vois plus comme il y a un surplus de Flandrien, plus comme un manque de grimpeurs.
Alex, comment est-ce que tu vois pour ta part ce mercato d'Alpecin Phoenix? Il te fait envie vraiment également?
Je suis absolument d'accord avec Hugo. Je trouve qu'Alpecin Phoenix, c'est une équipe qui va viser surtout la première place à l'Europe Tour, encore une fois. C'est pas vraiment une équipe qui va chercher à performer en World Tour hors des courses d'un jour / flandrienne. Surtout parce qu'ils vont choisir leur wildcard. Ils sont pas obligés de venir sur toutes les épreuves World Tour.
Tout à fait.
Moi, pour moi, c'est un très bon recrutement qui va dans le sens de l'équipe, où c'est une équipe qui est très axée flandrienne, ardennaise. C'est un bon effectif pour soutenir Van Der Poel. Et en plus, avec la venue de Philipsen, ils ajoutent un pôle sprint qui va renforcer celui de Modolo. Il y aura aussi
Xander Merlier.
Et Tim Merlier.
Tim Merlier, vu la saison de Modolo.
Avec la venue de Xander Meurice, que je trouve qu'il y a un coureur qui est un peu sous-apprécié. Qui a un très bon équipier, mais qui, quand il a sa carte, il peut faire de très bonnes performances. C'est une machine à top 5 dans les courses Europe Tour, avec les Grands Prix, que ce soit en France ou en Belgique. Donc je pense que pour leur objectif, c'est un mercato réussi. Ce n'est pas un mercato d'équipe World Tour ou un mercato généralisé, mais pour ce qu'est l'Alpecin Phoenix, c'est un mercato, un très bon mercato.
Tito, pour ta part, un bon mercato qui peut permettre aussi finalement de dire un peu plus que Alpecin Phoenix, c'est autre chose que Mathieu Van Der Poel.
Oui, exactement. Moi, je trouve que c'est un mercato totalement cohérent, dans le sens où on n'a pas un amas de leaders, justement, parce qu'il les avait déjà. À part Philipsen, il n'y a pas de grosses têtes d'affiche qui rejoignent. C'est des coureurs, malgré toutes leurs qualités, qui sont plutôt en second rang, souvent, et qui, du coup, vont pouvoir évoluer au plus haut niveau, donc au World Tour comme statut, avec un statut d'équipier, donc que ce soit pour Van Der Poel ou les sprinters, mais qui pourront aussi avoir leur carte soit en échappée, soit sur des courses de plus bas niveau. Donc je trouve que justement c'est assez cohérent avec le calendrier qu'ils auront.
Alors à présent, on va passer au flop transfert. Vous allez nous dire un petit peu pourquoi vous avez fait ces choix-là. On va commencer en restant sur le thème un peu des classiques, avec un coureur qui est très doué dans ce domaine, Ivan Garcia Cortina, qui rejoindra la saison prochaine à l'équipe Movistar. Il est en partance de Bahrain McLaren. Titouan, tu as voulu parler de Ivan Garcia Cortina dans cette catégorie. Pourquoi ? Pour Movistar ou pour lui, son cas personnel ?
Alors, en fait, pour lui, parce que pour Movistar, c'est en fait un bon recrutement, parce que c'est quand même vraiment un crack en puissance pour les Flandriennes. Il avait été un peu mal sur les dernières classiques de l'année cette saison, mais ça reste vraiment encore très solide. Qui a gagné sa première étape, il me semble, World Tour en Europe, sur Paris-Nice. Donc, très bon coureur, mais qui là va se perdre avec un manque de densité vraiment derrière lui. Parce que bon, même si le transfert était finalement assez logique, sachant qu'il s'entraîne beaucoup avec des Movistar, là il va pas avoir vraiment de personnel derrière lui. Pour donner un exemple tout bête, sur les classiques flandriennes de cette année, on a quasiment aucun Movistar qui finit à l'avant. Le seul bon coureur flandrien que l'équipe a, c'est Johan Jacobs, le jeune Suisse, mais justement il est jeune, donc c'est pas le coureur d'expérience dont peut avoir besoin un leader sur ce genre de classique, qui tient la distance. Sinon, le seul coureur d'expérience, c'est Emmanuel Herviti, qui se fait quand même vieillissant, qui a de moins en moins... Enfin, le physique commence à baisser doucement, mais c'est logique. À 37 ans, c'est un peu le papy de l'équipe avec Valverde. Voilà, c'est pour ça, dans ce sens, on fait un peu dommage pour lui, d'autant plus que Jürgen Roland part à la retraite alors que c'était un peu aussi la carte flandrienne de l'équipe. Donc c'est pour ça que je trouve dommage, parce que là il va devoir un peu se débrouiller tout seul, sans équipier d'un money time, alors que sur des courses comme Paris-Roubaix ou le Ronde, on sait que c'est primordial. Donc voilà, je trouve ça assez dommage pour lui, même s'il s'est brillé seul. Donc ça au moins on ne peut pas l'y retirer.
Alex, est-ce que tu partages l'avis de Titouan sur la signature d'Ivan Garcia Cortina chez Movistar ?
Garcia Cortina, le souci, c'est que j'ai aucune idée de comment Movistar va l'utiliser. Comme dit, c'est un coureur qui a des capacités, que ce soit sur les vallons ou sur les Flandriennes, qui a également une très bonne pointe de vitesse. Et justement, j'ai du mal à voir où il va s'insérer dans l'effectif, parce qu'il n'y a pas masse d'équipiers chez Movistar, que ce soit du côté des Ardennaises ou des Flandriennes. Movistar, c'est une équipe qui est surtout axée grand tour, course d'une semaine.
Et qui va continuer avec le recrutement notamment de Miguel Angel Lopez. Mais justement, cette signature de Garcia Cortina, c'est pas un peu pour compenser ce manque dans ce domaine des classiques?
Bah, si c'est justement pour compenser ce manque, il faut lui mettre des équipiers à côté. Enfin là, Imanol Erviti, voilà quoi. Et même du côté du pôle sprint, si tu utilises Garcia Cortina en tant que sprinter, il faut lui mettre un bon poisson pilote. Mais là, donc je suis un peu du même avis. J'ai juste du mal à voir où Garcia Cortina va s'insérer dans cette équipe Movistar. Après, peut-être qu'il va tout faire tout seul, hein, c'est aussi possible. Mais je trouve que c'est dommage de partir de Bahreïn pour Movistar pour ensuite devoir se débrouiller tout seul et tenter d'aller décrocher ses bouquets tout seul sans avoir de renfort.
Hugo, est-ce que pour toi aussi, c'est juste la signature d'un très bon classique-man espagnol dans une équipe espagnole? Et après, peut-être un peu des questions sur ce qu'il va pouvoir y faire.
C'est un peu ça aussi. C'est vrai que ça manque vraiment de coureurs d'expérience avec la retraite de Jürgen Rolands chez Movistar. Parce que là, les soutiens, ça va être Johan Jakobs, Yuri Holman ou Mathias Norsgaard. Et c'est vrai que même si Johan Jakobs, il a montré de belles choses en cette fin d'année, ou comme Matteo Jorgensen, même si on ne sait pas trop vers où il va aller de ce côté l'américain, bah, c'est vrai que ça manque beaucoup. Ça manque d'expérience. Et c'est vrai que dans le mercato de l'équipe, bah, on a recruté Garcia Cortina, mais à côté, bah, ok, on a recruté Lopez. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de recruter Lopez quand effectivement il y a Valverde est vieillissant, mais bon, il est toujours là, il jouera plus les premiers rôles. Est-ce que c'était vraiment nécessaire quand même avec Mas qui a fait malgré tout une bonne saison et Soler qui ne semble pas fait pour les grands tours? Est-ce que c'était vraiment nécessaire de recruter Lopez pour la saison prochaine, surtout qu'il est visiblement recruté pour une saison? C'est ce que laisse entendre le communiqué de l'équipe en tout cas. Et c'est vrai que bah, sur le mercato, bah, on a Serrano qui est un puncher, qui est un jeune puncher qui est encore assez irrégulier. Il y a le portoricain Abner González, je ne sais pas trop son profil non plus. Et du coup, on a Gregor Mühlberger aussi, mais c'est un grimpeur, c'est pas lui qui va aider. C'est vrai que c'est un manque de densité. On n'a que des jeunes pour aider. Quoi. Et c'est pas les jeunes qui se sont montrés les plus solides, même s'il y a quelques espoirs. Quoi.
Ça peut vraiment lui faire défaut à Ivan Garcia Cortina d'être autant esselé chez Movistar?
Il y avait plus de soutien chez Bahreïn, c'est sûr, mais c'était pas non plus la big équipe. Parce que Sonny Colbrelli, on le voyait quelquefois, mais j'ai pas regardé toutes les courses, mais j'ai pas forcément souvenir de l'avoir vu vraiment tout le temps. C'était vraiment Osler, moi j'avais le souvenir de le voir, mais sinon les autres, il n'y avait pas forcément cette impression de Mouric ou vraiment de beaucoup de coureurs présents dans le Money Time.
Il y avait quand même Dylan Teuns aussi, qui était bien présent sur les Flandriennes aussi, par exemple à Lomloop. Alors je ne sais plus si c'est 2019 ou 2020.
Ouais, après, c'est aussi, je me dis, bah, au final, comme on a Mouric, on a Teuns, on a Colbrelli, bon, c'est aussi des coureurs qui quand même passent bien les bosses à différents niveaux. Mais au final, est-ce que Bahreïn avait encore besoin d'Ivan Garcia Cortina? C'est un peu ça que je me demande. Bon, il offrait un profil qui était un peu différent, mais au final, on voit que Bahreïn a quand même des solutions de rechange. Quoi.
Et après, si on se place aussi du côté de la Movistar, est-ce que, en tant que seule équipe espagnole du World Tour, est-ce qu'ils pouvaient se permettre de ne pas chercher à faire venir le meilleur classique-man espagnol dans leur équipe?
C'est vrai que quand on sait leur problème avec Aquadro sur le mercato, et le fait qu'ils aient vraiment fait un recrutement assez hétéroclite l'an dernier, c'était peut-être effectivement nécessaire parce que on ne sait pas pendant combien de temps ils vont réussir à recruter des Espagnols ou de la communauté hispanophone en Amérique du Sud, parce qu'on sait qu'ils sont bloqués sur le mercato, donc c'est aussi compliqué pour eux parce que Aquadro, il est agent de beaucoup de coureurs sud-américains et espagnols, et il leur bloque beaucoup le marché en allant chercher de plus en plus tôt les coureurs aussi. Et donc ça force aussi la Movistar à soit aller voir du côté plus jeune, côté hispanophone comme Abner González, ou aller recruter à l'étranger. Et donc effectivement, cette année, c'était peut-être obligé pour eux de recruter Ivan Garcia Cortina, et en plus de le sécuriser pour 3 ans.
Ça oui, c'est un transfert parfaitement logique de leur part finalement. C'est plus pour le coureur lui-même que c'est dommage, mais du côté de la Movistar, c'est une très bonne pioche.
Alors on va partir sur un deuxième coureur qui lui est un petit peu plus décevant, moins performant ces dernières saisons qu'Ivan Garcia Cortina. C'est Fabio Aru. Hugo, tu as choisi de citer Fabio Aru dans cette partie flop transfert, l'Italien qui quitte UAE pour rejoindre QBK Assos, une équipe qui se renouvelle aux deux tiers tout simplement. C'est pour toi un flop pour Aru, pour QBK, pour les deux?
C'est compliqué parce qu'à la fois j'avais envie de prendre Aru et à la fois j'avais envie de prendre QBK. Parce qu'on ne peut pas dire, vu l'état de l'équipe, vu l'état dans lequel l'équipe était à mi-novembre, pour eux, Aru, c'est forcément quasiment un des meilleurs coups qu'ils pouvaient faire. Mais ça reste quand même un coureur, c'est plus le grand Aru d'il y a 3-4 ans, on le voit d'année en année, mais c'est encore un coureur qui est capable de bien grimper, de faire des top, un peu de top 10, de plus dans les épreuves d'Europe Tour, et il va être quand même plus en peine sur les épreuves de World Tour, et c'est vrai que j'ai quand même beaucoup du mal à y croire, et c'est surtout aussi par rapport au fait qu'apparemment il était aussi lié à la Vinizabu, qui sur Twitter, le jour de son annonce chez NTT, a réagi par un tweet en disant qu'il n'y avait pas de Noël pour eux, donc est-ce qu'effectivement il y avait un accord verbal avec l'équipe, et est-ce que, je me dis, est-ce que c'était pas mieux pour Aru d'aller retourner un Continental Pro pour avoir peut-être un programme, je dirais pas plus adapté, mais je le vois mal faire une saison World Tour complète, très honnêtement. Surtout que, pour parler plus de la QBK Assos, pour moi c'est un recrutement d'équipiers, sauf que t'as pas vraiment de leaders qui ont besoin d'équipiers, parce que Aru, pour moi, c'est un doublon à Pozzo Vivo. Pozzo Vivo, il est bien revenu, mais on voit qu'il est quand même plutôt en peine. Il est là, mais il ne va plus jouer les premiers rôles. C'est, pour moi, Aru Pozzo Vivo, c'est doublon. Le seul leader d'équipe, c'est Nizzolo. On le voit, il a fait venir Pelucchi, et dans les communiqués de l'équipe, ça parle de construire un train de sprint pour lui. Mais même Nizzolo, c'est pas non plus l'assurance touriste, surtout qu'apparemment, il a aussi un rôle de leader sur Paris-Roubaix. Donc, c'est vraiment compliqué, parce que l'équipe, j'ai vraiment l'impression qu'elle est dans la main de Nizzolo.
C'est vrai que si on regarde les principales recrues de QBK Assos, c'est donc Fabio Aru, après il y a également Simon Clark, Sergio Henao, et le néo-pro Karel Vasek, qui lui est plus pour l'avenir que pour dès 2021.
Après c'est ça, c'est un peu ça aussi, Sergio Henao, au final j'ai regardé ses dernières saisons, en fait il est présent, mais c'est pas mais en second rideau. Et est-ce que vraiment, derrière, tu as un mercato d'équipier, mais sauf que tu n'as pas vraiment de leader qui nécessite une équipe pour eux. Quoi. Donc mais c'était certainement un des meilleurs mercato qu'ils pouvaient faire en même temps, vu les situations dans lesquelles ils étaient. Après, le problème, c'est est-ce qu'on avait vraiment besoin de recruter un Bertrand Lindemann, par exemple, alors qu'on ne conserve pas un équipier comme J. Robert Thompson, pour parler des Sud-Africains.
Et après, tout ça, ça soulève un peu une question et que je pose à vous trois, hein, Hugo, Titouan, Alex. Est-ce que sportivement, QBK Assos a sa place en World Tour?
Non.
Non, c'est sûr. Pour moi, elle n'a pas ça. C'est compliqué parce qu'en fait, quand tu vois le recrutement, tu as des gars qui sont issus du World Tour. Donc, tu as du mal à te dire ça vaut des comptes pro. Mais en même temps, c'est pas un effectif qui peut tenir la route sur toute la saison. Quoi.
Après, on peut se dire que ça a sa place au World Tour dans le sens où on a des équipes comme Cofidis ou Intermarché ou Antigobert qui sont aussi au World Tour et qui ont un niveau similaire, voire plus faible.
Moi, le problème aussi, ce que j'ai, c'est qu'en fait, on a une équipe qui est dans une dynamique très mauvaise et qui recrute des coureurs qui sont dans une dynamique aussi très mauvaise. Je veux dire, Aru, quand tu regardes le recrutement, Aru est dans une mauvaise dynamique et Nao, c'est pas ses meilleures années. À part peut-être Simon Clark, on a que des coureurs qui ont été plus ou moins décevants ces dernières années. Et pour moi, elle est un peu là la différence avec Wanty, c'est qu'ils partent quand même d'une base qui, certes, est Europe Tour, mais qui est quand même dans une plutôt bonne dynamique, avec par exemple un Pasquale qui a fait un bon Big Band Tour hein, entre des flancs. Et vraiment, j'ai vu beaucoup de monde qui disent OK, NTT est supérieur à Wanty, mais honnêtement, moi, je n'en suis pas persuadé, justement en raison de cette dynamique. Mais c'est vrai que ça pose vraiment la question de qu'est-ce qu'on est prêt à accepter, surtout qu'on ne sait pas, Lucie n'a pas donné à l'heure actuelle la liste des équipes World Tour, il me semble. Alors que normalement, elle était censée être publiée il y a 2 mois, quoi, quasiment.
Il y a toujours, en effet, un petit peu ce flou artistique qui entoure le World Tour. On a ces deux équipes, hein, Intermarché, Wanty-Gobert et QBK Assos, qui n'ont pas encore été officialisées en World Tour pour l'an prochain. Et pour finir un peu le bilan de QBK Assos, qui est pas forcément très reluisant au niveau mercato, avec seulement deux coureurs africains l'an prochain, deux sud-africains en plus, Nick Dlamini et Reinhard Janse van Rensburg. Pour la seule équipe africaine du World Tour, ça fait mal.
Il y a aussi Connor Brown qui a la double nationalité sud-afro-néo-zélandaise.
Tout à fait, ça fait trois, allez.
C'est quand même limite, parce qu'avant, justement, la QBK Assos, moi, ce que j'aimais bien dans cette équipe, c'est que ça promouvait le cyclisme africain en World Tour. On avait un tas de coureurs sud-africains, érythréens, éthiopiens et compagnie qui étaient dans cette équipe. Là, ils vont en perdre cinq. Pour moi, en fait, l'identité de l'équipe, elle est totalement morte avec ce mercato, et je trouve ça vraiment dommage.
Allez, on va finir cette partie flop transfert après Ivan Garcia Cortina chez Movistar et Fabio Aru chez QBK Assos. Je vais laisser la parole à Alex. Toi, tu veux nous parler plus globalement du recrutement d'Israel Startup Nation, qui a notamment comme tête d'affiche fait venir Chris Froome, Daryl Impey ou encore Seb Van Marck.
Ouais, et aucun des trois coureurs concernés, je pense qu'ils finiront tous leur carrière là-bas, un peu comme André Greipel. Israël, c'est une équipe que j'aime vraiment pas sur le papier. Je comprends juste pas du tout leur effectif quand je le regarde. Il y a plein de coureurs avec des profils différents, mais il n'y a pas de leader désigné. Le seul leader auquel je pense, quand on me dit Israël, je pense à Dan Martin, qui a fait une bonne saison, qui a fait une très bonne Vuelta, mais il s'est vraiment débrouillé tout seul, parce que derrière, quand tu vois leur effectif, c'est « Ah ouais, d'accord, qui est-ce qui l'aide ? Bah, t'as Neylands, ok. » Mais après, derrière, c'est vraiment catastrophique. T'as 12 sprinteurs, 2 grimpeurs. Et puis, en fait, Israël, c'est un peu le TSM du monde cycliste. C'est tu prends des coureurs qui étaient bons avant, qui ont fait deux saisons, ils n'ont rien fait, et tu les mets chez Israël et tu vas espérer que ça marche. Forcément, ça ne marche pas. Van Marck, c'est quelqu'un qui n'a rien fait depuis 3 ans. Et à mon avis, il va être mis dans cet effectif Israël où tu regardes. Ok, bah y a zéro Flandrien pour l'accompagner, c'est comme Garcia Cortina, sauf que Van Marck, lui, il ne fait plus rien depuis 2 ans. Donc, à mon avis, il ne va rien faire. Chris Froome, c'est différent parce que lui, il était très bon, il s'est blessé et il ne fait rien depuis sa blessure. Après, il est en récupération, donc on ne peut pas vraiment lui en vouloir, mais chez Ineos, Froome, il avait un effectif qui était ultra, ultra solide à côté. Et quand il va aller chez Israël, à moins qu'il stack Froome plus Dan Martin plus Michael Woods sur un grand tour, son équipier principal, c'est avec Chris Neylands. Donc déjà, le changement, est-ce que ça va lui convenir? Est-ce qu'il va pouvoir se débrouiller tout seul alors que chez Ineos, il avait tous les meilleurs grimpeurs du monde à son service? Moi, personnellement, je ne pense pas. Je pense qu'il a une saison 2020 où il ressort de blessures très compliquées. Je pense qu'en 2021, ça va être très compliqué pour lui de rebondir, surtout à son âge. Et derrière, Daryl Impey, je ne comprends pas le projet. C'est quelqu'un qui brille sur le Tour Down Under et qui disparaît totalement sur la deuxième partie de saison. Chez Mitchelton, ça marchait parce que c'était une équipe où tout le monde avait sa chance, où tout le monde avait, et surtout avec énormément de coureurs qui étaient très solides. Donc Daryl Impey, sur les courses un peu vallonnées, il avait aussi sa chance. Chez Israël, là aussi, je vois mal où il pourrait s'insérer dans l'effectif. Le seul que je pourrais voir vraiment performer dans l'effectif Israël, c'est Michael Woods, pour lequel j'ai encore un peu d'espoir. Woods, c'est un coureur qui sait se démerder tout seul. Joef Drapa, qui était un peu dans la même situation avec un effectif bigarré où il a réussi à se débrouiller. Mais après, Woods, j'ai l'impression que Dan Martin, c'est le leader numéro 1 et que Woods, ça va être son larbin. Donc, je suis un peu déçu du recrutement Israël. Je pensais qu'avec l'annonce de Froome, ils allaient faire « Ok, on va tenter de faire un effectif autour de Froome et on va ramener plusieurs grimpeurs ». Et au final, bah, j'ai l'impression qu'ils ont voulu jouer sur tous les tableaux. Ils ont voulu ramener un leader pour les Ardennaises avec Woods, un leader pour les Flandriennes avec Van Marck, un leader pour le début de saison avec Daryl Impey. Ouais, mais enfin, les équipiers, quoi. Tu peux pas faire une équipe avec 5 leaders et ensuite tu mets Goldstein, Einhorn pour les épauler. C'est pas possible. Je trouve qu'ils auraient dû se concentrer sur la venue de Froome et tenter de l'encadrer au mieux et tenter d'organiser quelque chose autour de ça, parce que là, j'ai pas l'impression que l'effectif Israël ait grand sens.
Après, est-ce qu'au vu des performances récentes de Christopher Froome depuis le Tour de France 2018, est-ce qu'on peut se permettre de construire une équipe autour de lui, tout simplement?
C'est vrai. Après, c'est vrai que c'est un pari. Mais derrière, si le pari Froome échoue, il reste quand même Dan Martin qui peut être un leader sérieux sur les grands tours. Donc...
Et tout en sachant que Froome aura 36 ans l'an prochain, ça commence à compter également.
Oui, absolument. Mais après, le système est le même. C'est OK, on fait venir Froome, on l'encadre un minimum, et si ça ne marche pas, on met toutes les ressources sur Dan Martin, ça peut marcher. Après, si la décision d'Israël est de « Ah ouais, Froome, on fait venir parce que c'est un gros nom, et s'il fait rien, tant pis, ok. » Mais alors, il faut essayer d'axer l'effectif autre part. Où est-ce qu'il faut axer l'effectif? Bon, il nous manque un Flandrien, très bien, on fait venir Van de Marck. Ok, Van de Marck, il n'a rien fait. Mais c'est pas grave, si on met un effectif autour de lui, ça peut marcher. Parce que GWF, il était un peu tout seul quand même. Qui est-ce qu'on fait venir? Personne. Pareil pour Michael Woods. J'ai l'impression qu'il vient un peu en équipier de Dan Martin, donc le recrutement fait sens. Donc avec les venus, après, derrière, je ne comprends pas vraiment le projet. Les venus, c'est Hagen, Berwick, De Marquis. C'est surtout des baroudeurs. Ce n'est pas vraiment des gens qui vont réussir à épauler, ce soit Dan Martin ou Michael Woods. Donc en fait, je ne comprends pas cette volonté de jouer sur tous les tableaux avec des leaders plus vieux, certes, mais qui sont... Enfin, certains, à mon avis, sont encore capables de performer, et de rien mettre à côté. C'est ça que je ne comprends pas.
Hugo, Titouan, est-ce que vous comprenez, vous, ce recrutement d'Israël? Est-ce qu'il n'y a pas tout acheté non plus?
Alors, je ne suis pas complètement d'accord avec Alex. Sur Froome, bah, j'ai du mal. Hein, aussi. Est-ce qu'il a signé un contrat de plusieurs années? Ça a parlé, je crois, jusqu'en 2024 ou 2025. C'est ça qui me gêne. C'est vrai que, bah, au début, j'étais pas du tout emballé par l'effectif, parce que ça annonçait du Hagen. J'avais l'impression que c'est un peu le bras droit de Froome. C'est bon, Hagen, il a eu son jour de grâce un peu sur la Vuelta 2019, mais c'est quand même plus un grimpeur, puncher, baroudeur, et c'est un peu pareil sur tout l'effectif. Et c'est vrai que moi, le recrutement qui me plaît le plus, c'est Michael Woods, mais j'ai peur que ça fasse doublon avec Dan Martin, effectivement. Et sinon, quand même, au niveau de Seb Van Marck et les Flandriens, je suis pas trop d'accord, parce que Seb Van Marck, il fait quand même 4e l'an passé à Roubaix, il fait 6e en 2018, il a surtout été blessé, mais il a que 32 ans, il me semble, et il a quand même quelques résultats, il n'est pas à la ramasse complète. Et derrière, l'effectif, il n'est pas folichon, mais on a quand même Offsetter qui a montré de belles choses cette année. Et puis, bon, pourquoi pas un Islands qu'on peut voir sur un Tour des Flandres, par exemple. Après, des Van Asbroek, il y a aussi des promesses avec Mats Wurts, ou pourquoi pas Jente Biermans. C'est plus fourni côté flandrien que vraiment côté montagne, où j'ai vraiment du mal à voir l'axe, effectivement. Et surtout, je ne suis pas non plus convaincu par les jeunes.
En tout cas, le point sur lequel on ne peut pas trop les critiquer, c'est que si on regarde le comparatif départ-arrivée, ça permet à l'effectif de gagner en qualité. Tout simplement, les départs, c'est principalement Nils Polite.
C'est pour ça qu'on peut dire que c'est un mauvais mercato, parce que, ouais, ils gagnent en qualité, quoi. Si tu regardes leur départ, bon, bah, c'était soit des équipiers ou des mecs en fin de course, bon, à part peut-être Mikkel Rehm et Nils Polite. Moi, en fait, ce qui me gêne plus, c'est de voir qui les vieux, entre guillemets, que leur effectif de vieux sera le même en 2022. Parce que là, au final, on a des recrues pour 3 ou 2 ans. Et moi, c'est plus ça que j'ai peur, parce qu'on a quand même pour 2022, on a quand même pas mal de vieux. Quoi. On va avoir Greipel, Woods sûrement, on aura Van de Marck assis pour 3 ans, on va avoir Impe, Froome, De Marquis. Ça fait quand même pas mal, je trouve.
Alors, on arrive petit à petit à la fin de ce podcast. On va maintenant jeter un petit œil rapide sur le mercato de nos équipes françaises. Est-ce que vous avez une équipe en particulier qui vous a marqué pour ce mercato?
Surtout pour B&B, parce que ce qui leur manquait, c'était une densité niveau Coupe de France, on va dire. Et ils ont recruté de la quantité. Je ne vais pas forcément dire de la qualité, parce que c'est pas des coureurs qui vont perfer beaucoup, 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 je trouve. Et c'est vrai que ça fait un peu empilement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont vraiment gagné quand même en densité. Thibaut Ferras, Quentin Jauregui, Jonathan Hivert, même s'il a fait une mauvaise saison et qu'il est plutôt vieux. On a plus, bon, Elliot Littard, même si c'est plus équipier. Nicolas Bagioli aussi, c'est pareil. Mais on a quand même plus... Voilà, il y a quand même de la densité par rapport aux groupes qui partent, c'est quand même un mercato qui est positif.
Voilà, c'est aussi par rapport aux coureurs qui partent qu'on va juger un peu ce mercato de B&B Hôtel, avec quasiment tous les coureurs qui partent, qui sont en fin de contrat, qui prennent leur retraite. Donc c'est presque un peu les coureurs les moins importants de l'effectif qui s'en vont.
Il en reste, que je crois, un tiers d'effectif début 2018, hein, il me semble, un truc comme ça, genre 7 sur 20 coureurs. Mais bah, quand on voit les coureurs qui partent, c'est, bah, on s'y attendait un peu, quoi, à la base. Donc, puis après, c'est un peu pareil pour Cofidis aussi. J'étais pas trop emballé par leur mercato au début, mais je trouve que Geschke et Drucker, c'est des bons coups. Bon, après, le problème, c'est que Drucker, il était souvent blessé ces dernières dans ces dernières saisons. Donc bon, il laisse comme partir Claes, mais Claes avait quand même un gros salaire, alors qu'il est quand même assez régulier. Donc je sais pas trop, mais je trouve qu'il est plus positif que négatif. Même si c'est plus du poste pour ce poste, on savait qu'ils n'allaient pas avoir un gros budget de transfert. Groupama FDJ, c'est aussi plutôt du poste pour poste, même si j'aime bien la venue de Walter et de Jack Stewart. Bon, je comprends pas trop la venue de Davy, même si c'est en tant qu'équipier.
Et après, pour finir, l'équipe qui est peut-être la plus ambitieuse dans ce recrutement côté équipe française, en mettant de côté AG2R Citroën, dont on a déjà parlé tout à l'heure, ça serait peut-être Total Direct Energy, qui fait venir notamment Pierre Latour, Edvald Boissonhagen, Chris Lawless, Alexis Vuarmo, Fabien Doubé. C'est un mercato qui est bien pensé, bien conçu pour de la part de Jean-René Bardolo, selon vous ou pas?
Ouais, je pense que c'est un bon recrutement pour le compte Cipro. Il y a des valeurs sûres. Hein. Enfin, Latour, il n'a pas performé en World Tour, mais en Conti, ça devrait faire le job. Pour aller chercher une wild card sur le Tour de France, ça devrait suffire aussi. Geniez, bon, il n'a pas forcément performé récemment, mais après, il s'est toujours encore grimpé. Loles, c'est un vrai bon coup. Au long terme, ça peut payer. Vuillermoz, pareil. Au niveau World Tour, c'est limite, mais en Conti Pro, on ne peut pas vraiment imaginer qu'il ne fasse pas des podiums, voire des victoires au niveau de la Coupe de France. Il y a aussi la venue de Carlos Rodriguez, qui est plutôt bonne aussi, le jeune espagnol. Après, je ne connais pas exactement son profil, j'ai du mal avec le circuit espagnol. Parce que, ouais. Il me semblait bien que c'était un grimpeur, mais j'ai du mal justement avec leur profil. Je trouve que le recrutement est plutôt pas mauvais, surtout quand on voit les départs. En fait, c'est deux départs à la retraite, Taramae qui faisait pas grand-chose, Hiver qui était bon, bof, ouais, il faisait son petit top 10 sur la Coupe de France, mais quand on voit ce qui arrive, franchement, à mon avis, Total, c'est un bon mercato pour une équipe Conti Pro, mais pour ce qu'ils veulent viser.
Et Tito, pour finir un peu le tour de table, c'est l'ensemble des recrutements de cette équipe française, donc qu'est-ce que tu en retiens?
Moi, j'en retiens quand même une hausse de qualité, je trouve, par rapport aux années précédentes, dans le sens où il y a quelques poids morts qui partent très souvent, pas mal d'entre elles, et en même temps, on fait entrer soit des bons espoirs, soit des valeurs sûres. Je pense notamment à la Total Direct Energy, et je pense aussi à Delco, qui, bon, malgré tous les problèmes qu'ils ont pu avoir au niveau administratif et au niveau de l'organisation globalement, fait quelque chose de pas si mauvais, je trouve, surtout au niveau des départs, dans le sens où les plus grosses pertes sont finalement des coureurs assez en fin de course, à part Romain Roubaud et Rémi Rochas. Mais sinon, ils gardent Guirmeil, qui est vraiment un coureur qui peut être une belle tête d'affiche à la fois pour l'équipe et à la fois pour le continent africain. Et ils gardent leur bon sprinter avec Pierre Barbier et Grosou. Et en même temps, il y a aussi l'arrivée de Edward Prades, donc on a un peu moins vu dernièrement, mais qui est quand même un bon puncher espagnol. Et Jacob de Bessay, qui est un bon espoir érythréen aussi. Donc pour ça, c'est pas mal. Et celui aussi, surtout, qui m'excite assez, enfin qui m'excite, que je trouve assez intéressant, c'est celui de la Cofidis, que j'ai un peu décrit au début, mais finalement qui est pas trop mal.
Et bien voilà, on arrive à la fin de ce podcast, de ce 26e et dernier épisode de l'année 2020. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce podcast et pour tous les podcasts de cette année 2020. On vous donne rendez-vous bien d'ici quelques semaines. L'année prochaine, en 2021, on est prêt à repartir aussi fort qu'en 2020 en tout cas. Merci Hugo, Titouan et Alex d'avoir été avec moi aujourd'hui.
Merci à toi.
Et donc d'ici le retour des podcasts Chasse-Patate au début de l'année 2021, on va prendre des petites vacances bien méritées pour tout le monde. Et on reviendra bien évidemment en début de saison, même avant le début de la saison, puisque la saison sur route est décalée à cause de l'annulation notamment du Tour Down Under. En attendant, vous pouvez donc bien évidemment nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, comme d'habitude, ainsi que sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate.